RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, le réchauffement ou dérèglement climatique a des conséquences un peu partout sur la planète, mais là où c'est le plus visible, c'est certainement en montagne. Les glaciers fondent, la neige est globalement moins abondante, et les stations de sport d'hiver s'inquiètent. Et si l'or blanc, comme on le surnommait il y a quelques décennies, venait à manquer, de quoi sera faite leur activité? Les amoureux du ski seront-ils toujours au rendez-vous? Dans les Alpes françaises, d'ores et déjà, les exploitants s'organisent, s'adaptent, diversifient parfois leurs activités. Montagne, le virage de l'après-ski, grand reportage signé Bruno Faure.
Un matin de février, la foule des skieurs prêts à grimper dans le téléphérique de l'Aiguille du Midi. C'est le point de départ pour s'approcher du Mont Blanc ou dévaler la mythique Vallée Blanche.
Ok, we go up there, we have two cable cars. We arrive at 2,848 meters, and we are lucky today because it's a very, very good weather.
Georges Unia accompagne un groupe de Suédois. Il est guide de haute montagne, président de l'association pour le respect du site du Mont Blanc, victime du climat.
Ah oui, bah sur 20 ans, là, la mer de glace, elle a perdu plusieurs centaines de mètres. Donc il y a la fonte du permafrost, des effondrements en masse. Donc aujourd'hui, c'est effectivement des changements que l'on observe tous les jours.
Sur votre activité à vous, ça change des choses? Vous êtes obligé de modifier vos parcours?
On modifie quelquefois nos parcours. On part pas aux mêmes heures, on part plus tôt. Vu que l'isotherme, la température zéro monte de plus en plus haut, c'est plus dangereux. Il faut s'adapter, il faut vraiment avoir encore plus de prudence qu'avant.
Merci.
Bonjour, merci. Passer les portiques, embarquement dans d'immenses cabines suspendues au-dessus de la montagne.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Non, mais t'inquiète, regarde, on est presque arrivé. Ah, c'est super, magnifique. Regarde là-haut, regarde. Si, c'est super beau. Par là, il doit y avoir le dôme du goûter, il doit y avoir l'aiguille du goûter. Le Mont Blanc peut-être.
Spectacle superbe, des pentes abondamment enneigées. Ça change des années précédentes, nous dit Sylvie, venue de Charleroi en Belgique. C'est une habituée.
L'année dernière, il n'y a presque pas de neige, l'année d'avant aussi. Ah, les autres années, c'est la cata. Il y avait beaucoup de glace, beaucoup de pistes qui étaient inaccessibles parce qu'il y avait de l'herbe. Enfin, voilà. Tout ce qui est glacier, ils sont remontés. C'est plus du tout comme avant. Ça a fort changé, la montagne a fort changé.
Office de tourisme de Chamonix-Mont-Blanc, bonjour.
Des skieurs désarçonnés et des professionnels conscients des défis à relever.
En 20 ans, on a perdu à peu près un mois d'enneigement en moyenne montagne sur l'hiver. Donc il faut vraiment se poser des questions de manière impérative et rapide.
Nicolas Durocha est le directeur de l'Office du tourisme de Chamonix.
Alors l'adaptation, elle est nécessaire en perspective des années futures. Nous, le travail qui est fait au niveau de l'Office du tourisme, c'est de renforcer notre activité hors neige sur ces débuts de saison un petit peu plus compliqués. Donc de multiplier tout ce qui est activité gratuite, tout ce qui est animation, notamment animation en première partie de soirée. Et le principe, c'est de dire oui, la vallée de Chamonix, même si par nos domaines d'altitude on garantit du ski, on représente aussi une attractivité différente de vacances à la montagne, comme du biathlon, petits événements pour la famille. Donc c'est sûr que ça transforme nos façons de voir et nos façons de gérer notre quotidien sur ces débuts de saison.
S'adapter, proposer autre chose pour continuer d'attirer des vacanciers. D'autres stations des Alpes françaises y ont été contraintes. C'est le cas d'Aillon-le-Jeune à seulement 1000 mètres d'altitude.
Alors là, c'est vraiment le cœur de la station. Ici, c'est vraiment le cœur de la station. Le télésiège est là-bas. Là, c'est la piste pour les déboutants. Été comme hiver, c'est là où toutes les grosses manifestations se passent.
Yves Boinet, retraité dynamique, préside l'association Les Amis du Val d'Aillon.
Alors là, on est au centre d'accueil et aujourd'hui, vous tombez bien parce que c'est le marché. Alors il y a des produits régionaux, il y a des produits locaux, parce que de toute façon, l'hiver, je ne vois pas une station morte. Ça serait mort. Sans ski, on pourrait pas faire grand-chose à Aillon Station 1000. Par contre, il serait très utile quand même de penser, si vous voulez, vu l'évolution climatique, de diversifier avec les saisons.
C'est quelque chose que vous avez craint
à un moment, la station fantôme où il n'y a plus rien?
Absolument, parce que en 2017, à un moment donné, sur les documents, c'était bien notifié que le démantèlement partiel de la station. Bon, alors qu'est-ce que vous vendez de beau là?
Alors qu'est-ce qu'on vend de bon?
Dites-nous.
C'est des chouchous, des mariettes.
C'est bon, très bon.
Vous savez ce qui est bon, hein?
Bah oui.
Hein, ouais, c'est bon les amandes. Allez.
Bon après-midi, bon courage.
Trop peu de neige, la fermeture d'Aillon-le-Jeune, décidée dans la grande ville voisine à Chambéry, déclenche un vent de fronde. Avec les élus locaux, Yves Boinet se bat, mobilise, avec des arguments et un contre-projet.
Développer la station en activité outdoor et quatre saisons. Ces projets, d'ailleurs, il y a une partie des projets qui sont en cours. La station génère, au sein du cœur du massif des Bauges, plus de 300 emplois. Donc, c'est pas négligeable.
Le ski tout seul, en moyenne montagne?
Non, il faut plus rêver, je crois que... Non, le ski seul ne suffira plus économiquement à... J'aime pas trop le mot dire rentabiliser, mais enfin à équilibrer une vie économique normale. Les stations de moyenne montagne seront dans l'obligation de se diversifier. Ça, c'est clair.
Aillon-le-Jeune a sauvé sa peau, du moins pour l'instant, mais reste sous surveillance. La Cour des comptes, par la voix de son premier président Didier Migaud, a d'ailleurs lancé une mise en garde aux stations.
L'évolution du climat et de la demande rendent inévitables des choix stratégiques concertés entre communes et un nouveau mode de gestion des concessions.
Puisque les finances publiques et des centaines de milliers d'emplois sont en jeu, les stations les plus dépendantes de la neige, comme le Grand Bornand, prennent les devants.
Voilà, nous sommes au départ du télésiège des Jetiers. Donc c'est un appareil qui est pris par pas mal de débutants, donc on fait très attention, on est obligé de le ralentir un petit peu. Il sera remplacé dans 2 ans avec un appareil débrayable qui sera beaucoup plus adapté à son service.
Allez, le prochain, allez, go!
Jean Bourset est le directeur des remontées mécaniques. C'est sa 35e saison d'hiver.
Assez rapidement, je dirais, dans les années 80, on a commencé à percevoir des difficultés. Je me souviens d'année 85 où il avait fait très sec, hein, pratiquement du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, rien n'était tombé. Et avec stupeur, on est arrivé aux vacances de Noël sans neige. En fait, il a neigé entre Noël et le jour de l'an. On avait mis, je me rappelle, les pisteurs à ramasser des cailloux, etc. On a pris tout le personnel et puis on se posait pas trop de questions. On savait que la neige allait arriver. C'était une première alarme, 1985. En 1989, là ça a été beaucoup plus difficile puisque la neige est arrivée mi-février. Et là ça a été le vrai premier manque de neige que j'ai connu. J'en ai connu 4 ou 5 en 35 ans avec des pertes d'activité conséquentes qui aujourd'hui sont mieux maîtrisées. On a beaucoup réfléchi à ce qu'il fallait faire pour que nos domaines s'adaptent. Si la situation de 89 se reproduisait aujourd'hui, c'est un peu reproduite, on pourrait même dire, on n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. Une piste, il est essentiel de la travailler. Donc avec une bonne préparation du terrain, peu de relief, peu de micro-relief et un engazonnement riche, avec quelques centimètres de neige, vous skiez.
Préparer la neige, la tasser, la stocker, mais aussi la fabriquer avec des enneigeurs ou canons à neige qui la projettent sur les pistes à volonté.
Déjà, le damage, c'était une façon de conserver la neige, puisqu'on la tasse, on la serre, elle se névéise, elle se transforme. Et petit à petit, il y a eu des premiers essais dans les années 80, et c'est les Américains qui étaient en avance, hein, comment faire de la neige de culture. Alors évidemment, aux États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus continental, là où ils en fabriquaient, donc ils avaient des températures froides plus importantes, et surtout de la sécheresse. Ce qui fait que leurs technologies n'ont pas forcément été adaptées tout de suite en Europe, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, c'est très très bien maîtrisé, on fait de la neige, je dirais, même à des moins 2 degrés, c'est possible. Le plus intéressant, c'est de la faire vers moins 6, moins 8, où là, est vraiment très très sèche et où on a des gains d'énergie très importants. Donc la neige de culture aujourd'hui, c'est une composante des stations. Ça, c'est les fenêtres de froid étant plus réduites aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a une quinzaine d'années. Mais bon, on est outillé pour ça. Nous, on a divisé par 4 le temps d'enneigement de notre domaine skiable sur les 3 dernières années. Les variations de chiffre d'affaires aujourd'hui dans nos métiers sont de l'ordre de 10-15% maximum, alors qu'autrefois elles étaient de 50% sur des situations identiques.
La neige de culture, encouragée financièrement par la région Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez, annonce faite en 2016.
Il ne faut pas qu'on laisse notre montagne sans aide. Si on s'équipe, si on met des canons à neige, on a parfaitement la capacité de garder notre tourisme d'hiver. Dans notre région, c'est 180 000 personnes qui travaillent grâce à ça. Jusque-là, la région tournait trop le dos à la montagne. Nous, on veut s'en occuper. Donc, on fait un grand plan neige qui va mobiliser toute l'énergie de tous les élus de la montagne et permettre de défendre les stations de ski et l'image de marque de Ronald Pauvergne.
Voie A, éloignez-vous de la Vendée au Dépé. Le TGV numéro 6917 en provenance de Paris-Gare de Lyon entre en gare.
Un choix stratégique qui fait débat. À Grenoble, nous rencontrons Freddy Maignan, gardien de refuge, 5 mois par an, et qui préside l'association Mountain Wilderness, traduisez la montagne sauvage.
On a 80% par exemple d'une station qui est enneigée, mais on a juste le bas où il manque et donc on ne peut pas fonctionner. C'est du dépannage, certes ça a un impact sur l'environnement, mais c'est raisonnable encore. Donc on n'a jamais été contre le principe des canons à neige. Là où on pense qu'on a une dérive, mais qui est à la limite de la bêtise, c'est que on n'en fait maintenant pas un outil pour mieux fonctionner, on en fait un outil marketing. C'est-à-dire que ça va être à qui aura dans les grosses stations les 1000 canons à neige, le premier, de façon à assurer la neige. D'une part, ce qui est le plus, je dirais, gravissime, c'est le fait que les collectivités publiques, notamment, je pense à la région Rhône-Alpes, pour ne pas la citer, mais c'est vrai de la région PACA aussi, poussent maintenant, depuis 2 ans, les petites communes à réinvestir dans la neige au moment où celle-ci est en voie de disparition en moyenne montagne. Alors, certes, dans un premier temps, ça rend service. D'ailleurs, imaginez le maire d'une petite commune qui a plus rien, on lui dit on va vous donner 60, 70, 80% de subvention pour avoir des canons à neige. C'est un peu le sourire qui arrive, hein, c'est-à-dire on va avoir de la neige l'hiver prochain. Mais regardons un tout petit peu derrière, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va falloir faire vivre ces canons à neige. C'est du fonctionnement, c'est de l'investissement et du fonctionnement qui va mettre en difficulté ces communes qui sont déjà en déficit très majoritairement. Mais il y a plus grave que ça, c'est qu'en fin de compte, au moment où, en moyenne montagne, ce tourisme du ski qui a fonctionné bien pendant 50 ans, objectivement doit changer, diversifier, réfléchir comment on peut fonctionner 4 saisons, l'été, diversifier les pratiques, réfléchir au rapport à la nature, à la montagne, aux attentes des urbains. Les urbains, ils sont 400 millions en Europe. Hein. Au moment où il y a besoin de s'ouvrir sur tout ça, la politique de la région, c'est de dire « Non, non, occupez-vous des canons à neige ». Résultat des courses, c'est quoi? On est en train de faire prendre du retard à la France sur le tourisme montagnard. Au moment où il faut s'ouvrir, on se referme. Donc, c'est une bêtise financière, c'est une bêtise environnementale, et c'est, on est en train de faire prendre du retard à la France sur le tourisme montagnard. On est pauvre sur la réflexion du tourisme en France, on s'est laissé enfermer dans le tout neige, et les canons à neige ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'Observatoire du Mont Blanc, au lieu de la science à Chamonix.
Un autre tourisme de montagne, pourquoi ne pas impliquer les citoyens dans l'observation de ce qui la menace? Irène Alvarez co-dirige le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude.
Depuis une 20aine d'années, on étudie ce changement climatique avec la participation des citoyens, donc en utilisant la science participative, qui n'ont pas forcément de compétences naturalistes au suivi du changement climatique et de la faune et de la flore de montagne. Et donc concrètement, ça veut dire venez en montagne, à Chamonix en particulier, lors de vos randonnées, ben, notez des espèces simples que vous voyez, transmettez ces données aux chercheurs. Ou ça peut être une forme un peu plus élaborée, c'est ben, accompagner les chercheurs pendant une semaine, un week-end, pour faire des relevés un petit peu plus compliqués. Et on espère effectivement que ça puisse se développer sur le territoire de Chamonix, et pourquoi pas plus largement.
Vous-même, vous avez des contacts avec les professionnels du tourisme, vous les conseiller entre guillemets?
Alors on ne conseille pas directement les professionnels du tourisme, par contre on travaille en lien étroit avec les collectivités locales et notamment la communauté de communes de la vallée de Chamonix et Pays du Mont-Blanc. Il y a par exemple un nouveau projet européen Adap Mont-Blanc qui vient d'être lancé, qui a pour but d'adapter la planification territoriale aux conséquences du changement climatique sur la durée des saisons, sur ce qu'on fait en avant-saison, ce qu'on peut faire en après-saison, proposer d'autres activités, d'attirer le tourisme, par exemple sur l'étude du changement climatique ou sur d'autres activités qui peuvent être intéressantes pour les visiteurs.
Et pour impliquer les touristes, il faut mobiliser aussi les acteurs locaux. Mathieu de Chavannes est le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc qui exploite les remontées mécaniques de la vallée de Chamonix.
On part du constat que dans chaque crise, il y a une forme d'opportunité et qu'il y a une demande des touristes pour comprendre ce phénomène. Donc nous, on a créé un centre qu'on a appelé le Glaciarium, dans lequel on explique aux gens comment naît un glacier, comment vit un glacier, le futur des glaciers. Ça leur permet de comprendre qu'il y a différents scénarios dans le futur qui peuvent se produire, et puis de se remettre un petit peu en cause aussi en tant que citoyen sur le comportement à avoir dans la vie de tous les jours.
Est-ce que le mot est trop fort si on dit que c'est un modèle économique qui est à revoir ?
C'est un modèle économique qui doit évoluer. Ah, ça, c'est sûr. Complètement à revoir. Pour l'instant, je pense que non, c'est trop tôt pour dire ça, parce que les gens viennent quand même pour faire du ski.
Tout le monde va grimper. Les moniteurs sont déjà rassemblés. Les jeunes vont les rejoindre. On va couper les lumières et ce sera place à la descente au flambeau à présent.
Sans le ski, seraient perdus. Pour autant, ils skient de moins en moins longtemps et ils sont à la recherche d'autres choses. Donc c'est à nous, cette autre chose à satisfaire. Ça passe par de la pédagogie, ça passe par du ludique et c'est intéressant pour nous parce que c'est une forme de tourisme intelligent.
Voilà, là on est dans le train, dans le petit train prend la direction de la mer de glace qui est, on peut le dire, le laboratoire dans la montagne du réchauffement climatique. Environ une demi-heure de trajet à flanc de montagne, puis quelques minutes de télécabine et enfin quelques centaines de marches pour descendre sur le célèbre glacier où l'on peut observer de visu les effets du réchauffement sur la hauteur de la glace.
Ah oui, elle descend. D'ailleurs, vous voyez, en montant plus haut, il y a les années où la mer de glace arrivait. Des marches, il y en a de plus en plus. Donc là, c'est très représentatif.
Quand vous avez commencé à faire du ski, c'était où, vous diriez ?
Alors, la première fois que je suis venue, c'était en 82. C'était beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais. Oui. Il y a des choses comme là, le pas de chèvre, on ne peut pas le faire quand on veut. Avant, ça se faisait plus régulièrement. Donc, obligé d'adapter. Parce que le gel ne tient plus toute la roche, donc les éboulements, c'est vraiment très dangereux.
Allez, courage.
Merci.
De retour, en haut des marches, nous croisons Christian, la moustache, sportive, jurassien, amoureux des Alpes.
C'est différent. Là, pour descendre du pas de chef, c'est très bon au sommet, vous voyez, les traces. C'est très bon, puis le couloir du bas, là, il est très dangereux. Les accès deviennent de plus en plus verticaux, voilà le problème. Alors vous descendez jusque-là, si vous n'êtes pas bon skieur, ben là, vous appelez les secours. Et les secours vous passent un bon savon et ils ont raison. Ça me fait, oui.
Vous fait mal ?
Ouais. Pour ceux qui suivent, nous maintenant, moi, je n'ai plus rien à prouver. Vous voyez, j'ai des traces de ski, là. J'en ai là. Tiens, les côtes, encore l'autre jour. Beaucoup de chutes. Mais bon, c'est le plaisir.
Prochaine étape pour Chamonix dans quelques minutes. Veuillez vous présenter au contrôle, s'il vous plaît.
Allez, c'est l'heure du train.
Ce train, vous l'avez pris il y a...
1000 fois. On l'a pris, on l'a loupé, on a tout fait. Quand vous l'entendez siffler là, puis vous montez, puis ça fait 18 heures, vous crapahutez, c'est dur à avaler. Mais bon, on recommence. On y reviendra encore. Ça fait des années, des années, des années.
Montagne, le virage de l'après-ski, grand reportage Bruno Faure, réalisation Nicolas Benita.